Vagabondage, l'émission littéraire et poétique de Calade, c'est maintenant. Bonsoir et soyez les bienvenus, vous qui êtes à l'écoute de Calade. Et oui, Sylvie Calais qui est présente, elle a tiqué parce que justement j'avais commencé à écrire. J'espère que mes compagnons d'émission ne me tiendront pas rigueur d'avoir osé changer notre générique pour cette émission estivale. Mais ce temps est bon, me semblait, s'y adapter pour aujourd'hui. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
On se retrouvera un peu plus tard dans l'émission en compagnie aussi de Bertrand Lamure pour sa chronique littéraire du libraire, même deux chroniques qui nous préparent, une spéciale bande dessinée et une spéciale sélection des livres pour l'été. Et bien sûr Sylvie, on se retrouve pour la chronique mensuelle sur les mois.
Le mois de juillet.
C'est une chronique qui est mensuelle parce qu'elle vient tous les mois et en plus elle est sur le mois de juillet.
En plus, ça tombe bien. Hein.
Notre vagabondage du jour nous emmène au village de Clochemerle. D'ailleurs, on met une musique qui est en relation avec ce village puisque c'est tiré de la bande originale du film qui est consacré au village de Clochemerle. On en parlera un petit peu plus tard. Clochemerle, c'est un village à mi-chemin entre la fiction et la réalité. Parce que oui, si vous cherchez sur Internet ou sur les cartes Clochemerle, vous allez trouver des choses qui s'appellent comme ça, mais pas vraiment un village entier. Et ce village à mi-chemin entre la fiction et la réalité, eh bien, c'est le lieu de la dernière aventure des frères Bompier en bande dessinée. Et cette dernière aventure, elle s'appelle « Une étrange disparition à Clochemerle ». Et nous recevons ce soir David Besnay, auteur, et Éric Martin, illustrateur et créateur de cette série. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir à vous tous.
C'est le deuxième tome des aventures des frères Bompier. Et pendant ce temps, nous accueillons Bertrand Lamure qui vient de nous rejoindre. A-t-il eu le temps de fermer boutique qu'il vient nous rejoindre. Alors, c'est le deuxième tome des aventures des frères Bompier qui a été, ces deux personnages, créés par Éric Martin. Les personnages Disney, oui, mais en fait, pour ceux qui sont observateurs, les frères Bompier, on peut les croiser en chair et en os parfois dans le Beaujolais, mais on n'en dira pas plus. Et si jamais ils sont à l'écoute ce soir, on les salue chaleureusement.
Oui, je pense que ce soir, ils nous écoutent, donc avec David, toute l'équipe, on les salue bien fort.
Alors, comment est venue l'idée d'abord de cette série? Avant de parler de ce deuxième tome sur l'étrange disparition à Clochemerle, il y a eu d'abord un premier tome, Les frères Bompier et le mystère de la femme à deux têtes.
Oui, alors le mystère de la femme à deux têtes a été vraiment inspiré de ces deux personnages que j'ai rencontrés dans la vie réelle au sein d'une association dont je faisais partie. Et je me suis dit, en voyant ces deux personnages, il faudrait que je les mette en bande dessinée parce qu'ils ont vraiment une bonne tête.
Ah oui, ils ont vraiment une... Même pour de vrai. Hein.
Pour de vrai.
Ils sont des personnages.
C'est ça, exactement.
Quand on parle d'eux, on parle de personnages.
C'est ça.
Et donc, ces frères Bompier aiment leur Beaujolais.
C'est des vrais ambassadeurs du Beaujolais. C'est des gens qui sont érudits. Pierre aime la littérature, il écrit. Michel, lui, est un fan de musique. Ils ont une vraie culture et aussi une vraie culture du Beaujolais. Ils aiment plusieurs endroits où ils aiment se retrouver tous les deux, rencontrer leurs amis et profiter de tout ce que le Beaujolais nous apporte de bon.
Et dans ce deuxième tome, eh bien, ça les emmène alors à Clochemerle. Alors, est-ce qu'on peut peut-être, David Besnay, vous qui êtes journaliste d'abord, pour vous présenter, et grand connaisseur aussi de l'histoire et des histoires du Beaujolais, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est Clochemerle?
Alors, Clochemerle, c'est d'abord un roman écrit par Gabriel Chevalier en 1934. Et de nombreux villages du Beaujolais se sont posé la question, est-ce que Clochemerle, c'est notre village? Salles, Beaujeu et d'autres, Juliena, bon, Beaujolais bien sûr, se sont positionnés. Et finalement, sans doute que les vignerons de Vaux-en-Beaujolais avaient un peu plus de conviction que les autres. Et Gabriel Chevalier a reconnu Vaux comme étant le village qui l'a inspiré pour écrire Clochemerle. Clochemerle qui a été un best-seller traduit en une vingtaine de langues et en des millions d'exemplaires.
Alors en plus c'est une histoire assez amusante, hein, l'histoire de ce roman Clochemerle. Ça tient, dit comme ça, l'histoire de Pissotière.
Oui, c'est la fameuse histoire de la Pissotière qui sera construite à côté de l'église et qui va diviser le village, pour faire simple, entre le clan du curé et les laïcs progressistes de gauche de l'autre.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup de cet auteur, Gabriel Chevallier, est-ce que, avant d'écrire ce livre, Clochemerle, quel était son métier, quel était son parcours?
Alors, Gabriel Chevallier, d'abord, c'est un enfant de la guerre, parce qu'il est né en 1895, donc il a été mobilisé en 1914 jusqu'en 1918. Il a été blessé, mais il en est sorti vivant, contrairement à beaucoup de ses camarades. Et du coup, quand il est revenu de la guerre, il a exercé, des dizaines de métiers, d'activités comme ça pour gagner sa vie. Il avait fait les Beaux-Arts avant de partir à la guerre, donc il a été un peu publiciste, un peu dessinateur, professeur de dessin. Et il était passionné aussi par l'écriture, et finalement il s'est lancé. Alors son premier roman, ça a été Durand Voyageur de Commerce, où il racontait son expérience de voyageur de commerce, parce qu'il l'a exercé pendant environ 3 ans. Et ensuite il a écrit La Peur, où il racontait son expérience de poilu, et qui est vraiment un des plus beaux livres sur la Première Guerre mondiale que je vous conseille. Je pense que Bertrand Lamure, le libraire, le conseillerait avec moi.
Oui, tout à fait. Surtout en 2018, hein, la période effectivement du centenaire. Voilà, c'est quelque chose. Un livre qu'on a redécouvert, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
Est-ce que Clochemerle, c'est un livre qui est toujours demandé, Bertrand?
On va peut-être pas s'emballer. À mon avis, quand même beaucoup plus demandé à l'office de tourisme de Clochemerle qu'à la librairie. Je trouve ça fait partie de ce qu'on appelle nous des livres du fond, c'est-à-dire que alors, entre guillemets, il faut avoir Clochemerle, et je trouve que voilà, ça fait partie des livres que sans utiliser l'obligation, c'est le plaisir d'avoir un livre comme ça, parce que c'est à la fois un livre drôle, pittoresque. Il y avait eu d'ailleurs une pièce de théâtre qui avait été faite par Alette Picard il y a de ça une trentaine d'années. Et voilà, donc sinon, c'est un livre. Puis moi, j'avais adoré quand je l'avais lu. C'est génial.
Donc c'est dans ces pérégrinations en tant que vendeur et en tant que commercial, on dirait maintenant, qu'il a été amené à pouvoir voyager dans le Beaujolais, j'imagine.
Oui, tout à fait. Alors il était donc originaire de Lyon, et il avait de la famille maternelle dans le Charolais. Alors déjà, il croisait régulièrement le Beaujolais pour se rendre d'une destination à l'autre. Et effectivement, en tant que voyageur de commerce, il a beaucoup arpenté les routes du Beaujolais notamment, mais pas que, mais beaucoup de Beaujolais aussi.
Alors dans cette bande dessinée, vous imaginez comment cet auteur a pu à un moment tomber sur le village de Vaud et avoir l'idée d'y faire exister une histoire, en tout cas, et comment dans ses voyages Gabriel Chevallier a eu cette idée de Clochemerle. C'est là où je disais que c'était un peu comme Clochemerle qui est entre la réalité, puisqu'aujourd'hui il y a la cave de Clochemerle, il y a des lieux en tout cas qui portent ce nom. Et malgré tout, ça reste un lieu de fiction. Et dans le livre, dans la bande dessinée, vous voyagez vous aussi entre cette réalité et cette fiction. Et il y a l'un des frères Bompier. Il faut que je fasse attention pour ne pas donner le vrai nom. On a tellement envie de donner leur nom.
Il faut faire attention.
Il y a l'un des frères, du coup, qui va avoir la chance de rencontrer Gabriel Chevallier. Je pense que je ne trahis pas beaucoup l'intrigue en disant ça.
Non,
on
ne
va pas en dire beaucoup plus. Et du coup, il voyage avec lui. Et on voit presque un peu la genèse de ce livre, quoi, les rencontres qu'il va faire, les arrêts, toutes ces histoires-là, et qui vont petit à petit faire germer dans l'esprit de cet auteur un futur livre.
Oui, alors c'est une libre adaptation. Je ne crois pas que Gabriel Chevallier ait rencontré un frère Bompier dans sa vraie vie. Mais voilà, ça m'a plu d'imaginer cette rencontre et d'imaginer les doutes qui ont traversé Gabriel Chevallier, parce que en tant qu'auteur, il a eu du mal à percer. Il a envoyé ses manuscrits maintes et maintes fois, et il a été assailli par les doutes. Il a fait d'autres travaux avant de devenir vraiment écrivain. Donc ça n'a pas été un parcours facile. Donc voilà, je me mets un peu à sa place à travers cette histoire et imaginer ses doutes et comment, avec un peu de concours de circonstances, il arrive à écrire ses romans.
En plus de l'histoire de David, ce que je trouvais intéressant et que vraiment j'ai apprécié, c'est que Pierre, justement, qui aime la littérature et qui est vraiment proche de la littérature beaujolaise, puisse rencontrer Gabriel Chevalier, c'était super, super bien.
C'était que son personnage, en tout cas, le rencontre,
tout à fait.
Ça a permis de créer un petit pont. Et vous lui en avez parlé après un peu, non ?
Non, on n'a pas eu l'occasion.
On n'a pas eu l'occasion de savoir si ça lui avait plu d'être mis en scène ainsi.
Je pense que ça lui a plu de toute façon. Après, on n'a pas parlé du fond, vraiment.
Alors parlons un petit peu, Éric Martin, de ce travail d'illustrateur, à la fois aussi créer des personnages, de la collaboration pour ce deuxième tome avec un auteur qui est David.
Oui.
Comment ça s'est passé un peu la genèse de ce deuxième tome et la collaboration avec David?
Alors le premier tome, je l'avais fait tout seul, c'était un petit peu un challenge. Je voulais vraiment mettre ces deux personnages en avant dans une bande dessinée. Donc c'est une première BD, un premier tome qui est plus un pilote. Et vraiment pour l'histoire, de rencontrer David, ça a été vraiment un soulagement entre guillemets, puisque je suis plutôt attaché au dessin, à la narration par l'image, plutôt que de m'exprimer par l'écrit.
Pour l'anecdote,
David Besnay,
on s'était recroisé au Salon du Livre de Villefranche 2018. Et donc je lui avais acheté le premier tome de sa BD. Il m'avait fait une petite dédicace où il me disait « Pourquoi tu ne m'écrirais pas une histoire ?» Et donc je l'ai pris au pied de la lettre.
Voilà. Des fois, c'est simple, il suffit de demander.
Avec David, on s'était croisés auparavant sur les bancs du lycée, puisqu'on était tous les deux à Claude Bernard pendant des études. Donc on se connaissait déjà un petit peu.
Ouais. Éric, parle-moi un peu de ton parcours alors. Comment tu en es arrivé? Quel chemin t'ont mené un jour à te lancer dans une bande dessinée? Quelles études? Quelles expériences?
J'ai fait l'école Émile Cole à Lyon, de bande dessinée et d'illustration. Et donc des études de Claude Bernard en histoire de l'art et dessin. Et naturellement, petit à petit, j'en suis venu à faire la bande dessinée.
Il n'a pas beaucoup envie de parler, hein, Éric.
Non, c'est difficile pour moi comme exercice. C'est pour ça que je préfère m'exprimer sur le papier ou à travers mes illustrations. Alors, c'est beaucoup plus facile.
En dessin, la radio, c'est pas super évident.
Non, c'est sûr.
Alors Éric, moi je vais avancer un peu là avec un petit pas, parce que je ne suis pas un grand, moi, du coup, spécialiste de tout ce qui est dessin et de toute l'histoire de l'art. Malgré tout, en voyant certaines planches, et notamment les planches du village ou des planches d'ambiance, j'ai ressenti un peu l'ambiance qu'on retrouve parfois dans les vieilles affiches. Des vieilles affiches publicitaires ou les vieilles affiches dessinées qui reprennent surtout les publicités pour des lieux. Moi, je pensais à ces publicités qu'on avait pour la Côte d'Azur, les choses comme ça. Je retrouvais un peu cette couleur, cette ambiance, et j'ai senti dès la première planche que tu t'étais fait plaisir.
Oui, je me suis fait plaisir, d'autant plus que depuis quelques années, en fait, je développe un style qui de plus en plus me plaît, ce qui est toujours un petit peu difficile pour moi de regarder ce que je fais, puisque je suis très, très critique par rapport à mes réalisations. Et c'est vrai que naturellement, de plus en plus, je me dirige un petit peu vers ces affiches. Alors je pense qu'elles sont ancrées en moi, dans mon inconscient. Et c'est des périodes qui m'intéresse, et de les retranscrire sur le papier, si tu l'as ressenti comme ça, c'est très bien.
Surtout que dans cette bande dessinée, on fait un saut dans le temps.
Oui.
Alors il y a ce petit côté justement un peu ancien, du temps d'avant, comme ça, qu'on retrouve, et je pense que c'était pleinement le moment. Alors ce qu'il faut vous dire, chers amis auditrices et chers amis auditeurs, c'est que les dessins d'Éric Martin, vous les avez vus obligatoirement, parce que vous avez illustré tout un tas, j'allais dire, de supports, que ce soit des affiches pour des événements, des programmes, j'ai regardé un petit peu ce que vous avez fait, il y a beaucoup de choses. On retrouve vos personnages aussi parfois, il y a des collaborations dans énormément de domaines.
Oui, alors je travaille essentiellement pour la communication, et c'est vrai que parfois donc on fait appel à moi justement pour des événements, notamment locaux, et ce qui me fait énormément plaisir. Notamment, donc, j'ai illustré par le biais d'une agence du Beaujolais, le marathon du Beaujolais. Voilà, donc là, c'est la troisième édition. J'ai pu faire d'autres affiches aussi.
Toujours avec ce style qu'on sent. D'ailleurs, si on regarde votre travail un peu année après année, puisqu'on le retrouve facilement sur Internet, on voit aussi cette évolution et comment vous cheminez aussi vers ce style.
Oui. Alors, je ne sais pas où tout ça va me mener, mais en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pleinement dans ma création et je m'y plais énormément.
Ben ça, c'est une bonne chose.
Il avait fait une affiche pour la semaine littéraire il y a 2-3 mois. Et voilà, pareil, très réussi. Et voilà. Du coup, petit à petit, maintenant, à chaque fois, il y avait une exposition au passage de l'ancienne mairie la semaine dernière. Donc tout maintenant, on a l'impression qu'on voit Éric Martin partout.
C'est-à-dire que maintenant, Éric Martin réussit peut-être à se faire payer pour son travail, c'est ça?
Oui, peut-être aussi.
C'est un peu une boutade quand je dis ça, parce que je sais que souvent...
D'un autre côté, vu l'engin avec lequel je l'ai vu passer devant la librairie tout à l'heure, à mon avis, il y a encore du boulot quand même.
Tout à fait, je t'en parlerai tout à l'heure.
Alors vous, David Besnev, on l'a dit de formation et de parcours, vous êtes journaliste.
Alors non, de formation, je suis historien.
Historien, d'accord.
Et un peu de développement local, et je suis devenu journaliste un peu à l'insu de mon plein gré, comme on dit.
D'accord.
Donc j'ai commencé dans la presse professionnelle agricole, et d'ailleurs j'y suis retourné, j'y suis encore, cette fois dans la Loire.
Sauf que là, quand on est historien ou quand on est journaliste, on essaie de raconter au mieux le réel, soit le réel du présent ou le réel du passé. Et là, ça fait deux productions où vous passez dans la fiction.
Oui, ça fait longtemps que ça me tentait. J'avais effectivement avant écrit quelques ouvrages plus sérieux sur le vin, l'histoire locale. Et voilà, donc j'avais écrit pour m'exercer, on va dire, quelques nouvelles à titre personnel, hein, non publiées. Et ça faisait un moment que je voulais passer là au roman. Et donc c'est ce qui s'est passé, puisque j'ai sorti il y a quelques semaines, là, quand les renards fumaient la pipe. Et donc la BD qui est venue, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, un peu par hasard, suite à une demande d'Eric. Mais j'y ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir.
Et ce passage justement du réel à la fiction, c'est passé donc par ces nouvelles, par ce travail d'écriture. Ici on a Sylvie Calais, que vous connaissez sans doute, oui. qui justement accompagne les gens à travers l'association Écriture et Papyrus dans l'écriture d'abord, dans trouver son écriture, mais aussi parfois dans comment structurer une histoire, toutes ces choses-là. Et comment vous abordez ce travail, David?
Je vais avouer que je ne vais pas être très pédagogue, parce que c'est assez intuitif. J'ai pas vraiment suivi de méthode particulière. Alors évidemment, je lis beaucoup, je connais instinctivement un peu la
structure. Non, mais le secret, c'est qu'il n'y a pas de méthode.
Voilà, c'est ça.
Alors je vais préciser ma question. À quel moment vous vous êtes autorisé à aller du côté de la fiction et raconter les histoires que vous aviez à l'intérieur de vous?
Ouais, je sais pas s'il y a eu un moment précis, un déclic. Enfin, j'ai pas le souvenir d'un déclic en particulier, mais effectivement, il faut du temps pour se lancer, pour oser le faire, parce que forcément, quand on est journaliste, on raconte l'histoire de telle personne ou de tel événement, donc on ne s'expose pas entre guillemets personnellement. Et ce qui n'est plus du tout le cas effectivement quand on écrit sa propre fiction, où du coup on s'expose au regard critique des lecteurs, et effectivement, c'est plus le même exercice. Mais bon, voilà, j'arrive à un âge où je peux me permettre.
La collaboration entre un illustrateur et un auteur, c'est une collaboration particulière. Il y a des étapes, il y a des moments de travail en solo, des moments où on se retrouve. Comment vous êtes organisés ensemble, Éric Martin et David Besnev?
Bah écoutez, moi j'ai écrit le scénario et les dialogues en essayant d'être le plus clair possible avec tout plein d'annotations pour la manière dont j'imaginais l'histoire, quoi. Je pense qu'Éric Martin...
Avec des lieux, des...
Oui, j'essayais d'être, assez précis dans les, dans les descriptions. Enfin, j'espère que je l'ai été assez.
Oui, oui, en fait, le travail de David a été très bien découpé. En fait, le découpage de ces scènes, très bien illustré. Il m'a donné aussi des photos pour que je me rende compte des endroits, aussi de certains personnages, parce qu'il souhaitait aussi, lui, de son côté, qu'il y ait des personnages...
Ouais, vous avez caché des gens, David, dedans ?
On a caché des...
Ouais, ils ne sont pas si bien cachés que ça, mais... Cherchez un peu, vous allez trouver.
J'en ai trouvé quelques-uns.
Voilà, donc son travail était vraiment très important et ça a été très facile pour moi de faire le premier découpage, le premier crayonné, en fait, pratiquement d'une seule traite. J'ai pu travailler mes cadrages, travailler donc la narration et ça a été très vite, en fait.
Est-ce que le moment, Éric Martin, que vous avez préféré dans ce travail, c'était le moment où... Il a fallu apposer la couleur sur vos dessins.
Oui, aussi, ça a fait partie de ce travail-là. C'était très intéressant parce que j'ai découvert d'autres choses par rapport à la première bande dessinée. D'autres choses que j'avais déjà expérimentées à travers mes illustrations.
Vous avez utilisé quoi comme technique ?
J'ai utilisé une technique numérique.
D'accord.
Voilà. Essentiellement sur tablette numérique.
D'accord. C'est bien fait. Alors, franchement, j'aurais pas parié quelque chose là-dessus. Moi, j'étais certain que vous aviez travaillé
en traditionnel.
En traditionnel, tout à fait.
Ouais. Non, pas du tout. En fait, j'ai créé mes propres outils et mes propres pinceaux, mes propres couleurs aussi, qui m'ont permis de faire ce travail.
Ça alors.
Ah ouais, c'est toujours quand on a dit, ah oui, en fait, c'est comme si...
Moi qui dessine à peu près comme un élève de CE1, je suis toujours fasciné moi, par la capacité qu'ont les dessinateurs, illustrateurs, enfin tous ceux qui sont doués un pinceau ou un crayon à la main. Mais là, du coup, quand je vois un peu le travail complet que vous avez fait avec les couleurs, je me suis dit, et en plus là, il l'a fait... avec du numérique, souvent ça semble plus basique quand c'est au numérique, et là il y a vraiment de la complexité dans le je sais pas, la gamme des couleurs, dans les nuances, et c'est...
Oui, parfois le numérique peut paraître froid.
Oui.
Là c'est vrai qu'on a des couleurs qui éclatent. David voulait aussi que les scènes se situent, on va dire, en période estivale, hein. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi ma palette dans ces tons là après, avec les textures, les pinceaux, les choses comme ça, c'est vrai qu'on est plus loin de ce qu'on pourrait imaginer avec le numérique. Ouais.
Et aujourd'hui, c'est la majorité, non, des illustrateurs qui sont au numérique, ou...
Oui, oui, beaucoup, ouais. Beaucoup, oui, beaucoup. Bien souvent, il y a un crayonné qui est fait au noir, donc peut-être en traditionnel. Et après, beaucoup de bandes dessinées sont mises en couleur avec le numérique.
On va peut-être profiter justement qu'on parle de cette période estivale pendant laquelle se déroule l'intrigue pour justement proposer à Sylvie de partager avec nous cette chronique sur le mois de juillet.
Ok, juillet alors. Alors, juillet est à Jules, César, ce que Mars n'est pas au marsupilami, ni a priori Laura et David à Johnny, son héritier direct et incontesté. Le fameux dictateur romain étant né le 12 ou le 13 du mois Quinctilis, on eut vite fait de transformer ce vocable imprononçable en Julius, alias juillet. Ce changement calendaire n'eut pas l'heure de plaire à Brutus et Cassius, deux cassos de l'époque peu amènes, pardon, comme leur nom l'indique, qui firent oxyre l'impérator en ni une ni deux. Adieu, Jules. Te voilà reconverti en boutique de fringues pour mecs branchés, ce qui revêt, si je puis me permettre l'emploi de ce verbe vestimentaire, une certaine logique. L'on sait en effet que Jules César, fort chagriné par sa calvitie galopante, prenait grand soin de son corps et de son apparence, allant jusqu'à se faire épiler la barbe, si, et portant sa ceinture lâche par-dessus sa toge, comme s'il était de mœurs efféminées, juste parce qu'il trouvait ça plus looké. Ah, la jeunesse patricienne! En fait, c'était un homme à femme, le Julius, un vrai Julot, pensez, avant de conquérir la divine Cléopâtre, alors qu'il folâtrait dans tous les coins, pour ne pas dire dans tous les cons, il a même joué à Zizi Pampan avec la daronne de Brutus, lequel n'a sûrement pas eu son mot à dire. Et on s'étonne après ça que ce garçon ait manifesté quelque amertume. Faut le comprendre aussi, il lui a quand même piqué sa mère, l'autre, tout dictateur qu'il était. Alors, Jules et Juillet descendent tous deux de Jupiter. Allez, hop, 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 au petit trot, parce que c'est loin là-haut. Hein. D'ailleurs, Juillet est un mois pentu, tout en déclivité. Le 3, à la Saint-Thomas, les jours y sont au plus bas, dixit un dicton. Le 14, on y descend la monarchie, via la commémoration de la prise de la Bastille. Ça pète et ça swing dans tous les coins. Sauf chez certains Indinois, nom donné en 2018 aux habitants de l'Ain, nous eussions préféré Indien. En effet, dans une petite commune au nord de Bourg-en-Bresse, depuis un arrêté de 1880, on a choisi de fêter le 14 juillet en août pour ne pas perturber les fenaisons. À la Bastille, Aristide Bruand, vous savez ce chansonnier qui s'adressait de la sorte aux gens du monde ayant l'outrecuidance de fredonner un brin. « Tas de cochons, gueule de miteux, tâchez de brailler en mesure, sinon fermez vos gueules !» Aristide Bruand, donc, et Toulouse-Lautrec, aime bien Nini Potchien. Elle est si bonne et si gentille. Quand le soleil brille dans ses cheveux roux, Génie de la Bastille lui fait les yeux doux. Et quand elle se promène du bout de l'arsenal, tout le quartier s'amène au coin du canal. Et j'ai pas chanté, vous avez de la chance. Faut le savoir, en 1886, la Bastille n'est plus une prison, mais un troquet. Nini Potchien et tous les autres s'y murgent à l'absinthe avec Patachou, je crois bien, non ? Ah, la jeunesse du 19e siècle, hein, par arrondissement. Alors, les samedis de juillet, des vacanciers nommés juilletistes descendent dans le midi à une allure d'escargots grabataires, rissolant et grillant dans leurs coquilles de tôle, car, après Sainte-Procule, arrive la canicule, parfois avant. Une fois installés dans leur mobilhome climatisé, certains, décidés coûte que coûte à s'intégrer malgré leur bouée géante à tête de licorne, descendront scintiller au bar du village des litres de rosée, des dizaines de boules anisées aux couleurs du sud. Tomates écarlates, perroquets olivâtres, mauresques mordorés. Pendant 15 jours, ils se nourriront exclusivement d'anchoyade et d'aïoli, gare à la cagagne, de soupe au pistou et de bouillabaisse. Ils écumeront les marchés de Provence, joueront à la pétanque et se régaleront du dialecte local gorgé de soleil. Celui où l'on blague avec les collègues et où l'on bat de les canons en sifflant un pastaga, où l'on fuit les boucans et les arapèdes, où les mains des pitchounes pèguent de sucre et où l'on fait marronner les couillons qui nous escagassent. D'autres, compensant sans peine la grossièreté de certains haussiens par une morgue toute juillet touristique, descendront en vrac les natifs du cru, tous superficiels, le soleil trop chaud, le vent trop fort, la plage trop petite, trop caillouteuse, trop algueuse, trop exposée, la mer médusée, les travailleurs locaux, tous feignants, le sable dans les sandwichs, trop croquant, les autochtones basanés, trop bronzés, les moustiques, trop tigrés, l'accent du midi, trop vulgaire, le chant des cigales, trop strident, le marché aux puces, trop mal famé, et l'art de la sieste, à laquelle ils finiront de toute façon par succomber. Oui, mais eux, c'est pas pareil. Ah, peu cher. À la fin du mois, le ciel, lassé de tous ses caprices, pourrait bien donner de la voix et participer à cette descente en règle. Si les fourmis s'agitent à la Sainte-Anne, l'orage, descend de la montagne. Mais figari. Bref, en juillet, si tout le monde transpire un bon coup, et certains sans se fouler beaucoup, il n'y a guère que les amateurs de psychobloc et les cyclistes du Tour de France qui grimpent avant de descendre, tout en s'efforçant de ne pas perdre les pédales. Juillet, terminus de ce texte, mesdames, messieurs. Tout le monde descend.
Merci Sylvie. On aurait pu même terminus de vagabondage en juillet. C'est notre pause en tout cas. Tout part de Villefranche, même pour aller très loin parfois. Il y a 2 ans, Nouvelle Voix en Beaujolais, un artiste sur la grande scène, Blic Bassi, est venu nous faire découvrir sa musique et sa langue, le bassa. Il y a fort fort longtemps, moi je suis allé chez les bassas à Ezekia, en train depuis Yaoundé, et le train est tombé en panne et il a fallu rentrer par nos propres moyens. Il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. Le train est gâté, vous devez tous descendre. Et nous voilà partis dans la brousse de chez les bassas jusqu'à un petit maquis où je n'ai jamais autant apprécié de boire une bière. Et moi je vous propose de découvrir Blic Bassi avec Maquis sur Calade. Thank you.
teni bo kibinura abebe bo eba di machel o abikovale abikova niukunde yesu yo so nae aba no.
Sur Calade, vraiment, je vous encourage à aller découvrir cet artiste et son album 1958, qui est juste magnifique. C'est le moment de retrouver notre libraire préféré pour, non pas une, mais deux chroniques. Une première plus consacrée à la bande dessinée.
Alors oui, parce que du coup, Eric était là. Moi, je ne suis pas un spécialiste de bande dessinée, mais
il y a un beau rayon bande dessinée quand même à la librairie des Marais.
Tout à fait. C'est un plaisir de, du coup, en fait, de d'avoir cet espace qui, voilà, c'est un plaisir à la fois de les lire, de les conseiller. Voilà, donc je suis attaché quand même à ce rayon, même si on est une librairie généraliste.
D'ailleurs, maintenant, on appelle même plus, il y en a qui appellent ça du roman graphique.
Tout à fait. Bon, il faudra peut-être demander à Eric s'il voit une différence entre bande dessinée, roman graphique. Il me fait un signe que non. Non, là, on l'a perdu, je crois.
Alors, moi, j'ai croisé des gens qui m'ont dit qu'ils ne lisaient pas de BD, mais qu'ils étaient passionnés de roman graphique. Ouais. Alors, c'est qu'il doit y avoir une différence.
Mais tu sais pas laquelle?
Bah, moi, je trouve, mais encore une fois, ma vision non spécialiste, que le roman graphique... On part plus dans un travail où l'illustration a été, entre guillemets, j'allais dire, très fouillée, parfois déstructurée. On n'est plus vraiment dans la BD classique, très encadré.
Oui, c'est ça.
Et voilà, et on peut partir vraiment, il y a une sorte de liberté totale.
Voilà, on laissera un petit peu plus court, vraiment au style graphique, voilà, qui va prendre un petit peu aussi le dessus, enfin entre guillemets, sur l'histoire, hein, même si ouais. Les deux vont de pair, mais c'est vrai que par rapport à un style bien établi de la bande dessinée, on sort un petit peu de ces codes-là.
Ouais. Ouais, voilà. Donc en fait, j'ai apporté quelques coups de cœur de l'année. Qu'on a beaucoup suivi. Alors je vais commencer par un roman graphique, et c'est peut-être le roman graphique de l'année, d'Emile Ferris, qui est une américaine avec un parcours assez fou, parce que c'est une femme qui à 40 ans a été piquée, je crois que c'est par un moustique, et ça l'a complètement paralysée, et il a fallu des années pour qu'elle retrouve une mobilité, entre autres une mobilité de la main. Elle y est arrivée et elle a créé un roman graphique qui est tout au stylo bille, autour d'une jeune fille à Chicago dans les années 60 qui est à la fois voit des monstres, se prend pour des monstres. Ça avait été édité par un éditeur qui est complètement barge, Dominique Bord, qui est les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Donc il publie des livres qui est allé dénicher au fin fond du catalogue américain. C'est toujours assez extraordinaire. Et chaque année, à chaque rentrée, il nous dit, cette année, c'est un truc de dingue, vous allez voir, c'est génial. Donc chaque année, on lui dit, oui, bah, c'est gentil, mais c'était déjà pareil l'année dernière. Et bah, faut bien reconnaître qu'à chaque fois, c'est pas mal.
Il est de plus en plus loin dans la dinguerie.
Voilà, c'est ça. Et donc là, l'an dernier, il n'avait pas misé sur un roman, mais sur un roman graphique qui est, moi, ce que j'aime, c'est les monstres, donc d'Emile Ferris. Totalement un ovni, mais que nous, on a adoré lire et proposer. Et alors, on était hyper, hyper fiers, puisque moi, ce que j'aime, c'est les monstres, a eu le Fauve d'Or à Angoulême, donc la récompense suprême, c'est ça, Eric?
Oui, tout à fait, je pense qu'avec David, on va l'avoir bientôt. Bientôt.
Ouais, ouais. Voilà. Bah, de toute façon, on fait tout pour. Ouais. Voilà.
C'est ça.
Donc voilà, très, très chouette, enfin, coup de cœur. Alors, après, pas forcément hyper facile, pas peut-être à mettre entre toutes les mains. Voilà, après, quelques petites précautions. Alors après, quelque chose d'un petit peu plus classique, mais que j'ai énormément aimé pour l'illustration, c'est Le Dieu Vagabond. C'est chez Sarbacane et c'est de Fabrizio Dori, qui est un Italien. Et là, on est sur, en fait, une sorte de demi-dieu qui était dans la bande de Dionysos, qui a été viré parce qu'il a un peu fait des conneries, et qui erre à travers la Terre, sur la Terre, depuis plus de 2000 ans. J'ai été fasciné par le graphisme. Oui. Il y a un côté un peu art nouveau que j'ai trouvé très beau.
Alors, je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté. Et c'est vrai que toutes les planches sont vraiment magnifiques.
À la fois l'histoire qui s'inscrit, voilà, hein, on le retrouve au bord de l'autoroute, là, et après il va essayer de rejoindre la fameuse bande de Dionysos, et c'est superbe. J'ai trouvé que ça, c'était, je suis pas un lecteur fanatique de BD, mais ça m'arrive d'en relire, et celle-ci je l'ai relue. Et ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'en fait, cette bande dessinée, elle est là tous les jours. Et tous les jours, on peut la proposer. Et du coup, tous les jours, c'est un plaisir de la proposer. Voilà. Après, c'est peut-être plus dans mes coups de cœur sur un jeune illustrateur qui s'appelle Timothée Le Boucher. Alors là, on est plutôt sur une BD dite un peu classique. Je ne sais même pas si on peut parler de roman graphique, là, pas vraiment. Il m'avait complètement bluffé avec sa première BD qui s'appelait « Des jours qui disparaissent », où c'était l'histoire d'un jeune homme qui, acrobate, 20 ans, fait une chute et se retrouve, bon, rien de particulier, mais il dort pendant 24 heures. Notre rêve parfois, et en fait ça se reproduit, mais les potes qui sont autour de lui disent ben non, t'as vu hier, et en fait quelqu'un prend sa place tout en gardant le même corps, et en fait il va y avoir une bataille entre ces deux personnes, et progressivement il va plus dormir 24 heures mais une semaine, deux semaines, un mois, et c'est assez bluffant, c'est pas vraiment de la SF, et c'est très bien. Et là il a publié récemment Le Patient,
donc Timothée Le Boucher, c'est chez Glénat. Et là, pareil, il nous amène dans un monde, c'est un jeune homme qui a eu, il y a eu une agression à la maison, beaucoup sont morts, lui il est vivant, mais il est resté dans le coma. Et il se réveille, et là, il va réapprendre à vivre qu'avec une psy, et cette psy, on se dit, bon, c'est peut-être pas tout à fait quelqu'un d'étranger. Je vois avec ma collègue Louise, on n'est pas du tout d'accord sur qui est cette psy. Voilà. Mais c'est accessible à tout le monde. On est vraiment sur quelque chose qui est classique, mais très original. J'ai beaucoup aimé.
Le patient de Timothée Le Boucher.
Je fais très vite pour terminer. Une série qui vient de se terminer, puisque le tome 3 vient d'être publié, qui est Grace Kings. J'ai bien aimé ce roman graphique, d'une part pour le graphique, je sais pas, il nous emporte tout de suite dans un autre monde, il nous fait tout de suite oublier notre univers. Et ce qui est génial, c'est que donc, ça se passe aux États-Unis. Et c'est une bande de une petite communauté qui s'est mise en place, un peu à part de l'univers des États-Unis, de Monsieur Trump, et ils ont leurs propres lois, leurs propres codes, jusqu'au jour, et effectivement, ça déconne un peu, il y a des morts chez eux, et le monde qui est autour, ben, en fait, commence à s'intéresser à eux. Il y a un petit côté complément des Glingos, un peu crados, et en même temps, en termes d'illustration, moi j'ai trouvé que c'était très très bon. Voilà. Et le dernier.
Il y a une petite pastille polar graphique sur celui-là.
Ouais, alors ça, c'est Futuropolis. Hein, là, voilà, hein, donc c'est chez Futuropolis, qui est une super bonne maison d'édition. Voilà, où est d'ailleurs notre voisin Benjamin Flao. Qui, voilà. Et pour finir, c'était plus pour évoquer. Donc, nous, en tant que librairie généraliste, on a évidemment le fond des classiques. On parlait tout à l'heure de Gabriel Chevallier. Et de plus en plus, des classiques sont adaptés en BD. Et je trouve que l'idée est assez intéressante. Voilà. Par exemple, la semaine dernière, j'ai relu La Princesse de Clèves, mais en BD. Ça va beaucoup mieux.
Il y a Madame Bovary. Madame Bovary, non ? Il peut adapter encore.
Ah ouais.
Il va peut-être l'envoyer à un ancien président.
Voilà, c'est ça.
Plus simple pour lui.
Et je, donc, dans toute cette production qu'il y a à l'heure actuelle, j'en ai juste sorti un. Qui est sorti il y a peut-être bien plus d'un an quand même, qui est Le Joueur d'échecs, donc tout le monde connaît de Stefan Zweig. Et là, donc, c'est en bande dessinée. Et toujours pareil, ça, il y a un graphisme, toujours un petit côté art nouveau. Et c'est extrêmement, extrêmement fort en termes de graphisme. Et je trouve que ça sert très très bien l'œuvre de Zweig, qui est l'un des plus beaux romans pour moi de lui, et on est vraiment sur quelque chose de très beau. Et je trouve que c'est une belle idée de temps en temps de mettre en BD, en roman graphique, des classiques de la littérature. Voilà, il y en aurait eu plein d'autres, mais là c'était 5 beaucoup de cœur de l'année.
Très belle sélection. Vous mettrai les liens sur le site internet www.radio-canada.fr. Et du coup, maintenant, une autre sélection, les autres rayons. Si on a envie de faire quelques petites courses avant de partir en vacances pour pouvoir utiliser son temps libre à quelque chose...
Je pensais que tu allais faire une pause, mais non, alors donc je continue. c'est un peu habituel. Simplement, c'est la dernière de l'année. Donc, c'est un petit peu notre sélection de l'été. Donc, nous, on fait une gazette à la librairie. Tous les 2 mois, une gazette papier. Et cette gazette, l'été, on aime bien qu'elle soit un peu plus poche. Voilà, c'est le poche qu'on met et qu'on file lire dans le sud, un peu comme Sylvie Calais, qui a déjà préparé ses valises pour le sud.
Et mes livres.
Et ses livres. Alors, donc, quelques coups de cœur. Un coup de cœur de ma part, qui est un livre qui n'est pas vraiment un roman, mais que j'ai trouvé absolument génial. Imaginez un philosophe qui dit « j'en ai marre, je veux faire autre chose ». Et il dit « je vais faire cantonnier à Fribourg en Suisse ». Donc on se dit « oui, bon, faut voir, faut réfléchir ». Et en fait c'est assez génial parce qu'il nous décrit sa ville, il nous décrit les gens, il nous décrit les rues. Et c'est extrêmement
beau, philosophique, mais pas que. Voilà, une jolie lecture, voilà, à lire. Et puis surtout, après, autant vous dire que le cantonnier de la rue, vous ne le voyez plus pareil.
Et comment s'appelle ce livre magnifique, on
l'a pas dit ? Oui, c'est vrai, en fait, je m'emballe, mais je n'ai même pas dit le titre, effectivement.
Ouais. On passe à la dernière.
Ah, ouais, bah oui, ça, c'est vrai que ça part un peu en vrille. Une rose et un balai de Michel Simonet, c'est aux éditions Pocket pour le poche, et c'est génial. Alors, il y en a un autre pareil. Alors là, c'est la lecture d'été. Hyper sympa, hyper drôle. Attention, le titre, cette fois, comme une mule qui apporte une glace au soleil. Et l'auteur n'est ni plus ni moins que Sarah Lapido Manica. Facile. Je ne répéterai pas. C'est aux éditions 10-18. C'est l'histoire, en fait, d'une dame. Elle a 75 ans et elle vient du Nigeria. Elle est docteur à San Francisco. Pas de problème. Elle a sa Porsche, etc. Et elle mène la belle vitre, voilà, haut en couleur. Et un jour, paf, accident. Et donc, maison de rééducation. Et là, on va avoir droit à ce qu'elle vit au quotidien, donc toujours pareil, haut en couleur, et puis tous ses souvenirs. Et c'est très, très drôle, très dépaysant. Voilà, je me suis bien marré. Alors, c'est aussi l'occasion d'avoir quelques petits coups de cœur qu'on est allé chercher loin. Mais moi, j'aime bien l'été, c'est-à-dire si on relisait des fois des classiques ou autres. Alors, un, si vous aimez les chats. Si vous n'aimez pas les chats, vous tombez, vous laissez passer.
Non, on adore les chats.
C'est 20 ans avec mon chat. C'est un livre, du coup, c'est un livre japonais. C'est aux éditions Piquet. Et l'auteur, c'est Ina Mayumi. Imaginez, vous recueillez une toute petite boule de poils, un tout petit chat qui doit avoir 2-3 mois, qui est abandonné, et vous l'accompagnez toute sa vie, jusqu'à la fin, voire même en pleine incontinence. Et c'est cette femme qui va l'accompagner, qui aura sa maison, guest pour lui, son jardin pour lui. Et c'est extrêmement mignon, tendre. Voilà, à lire dans un hamac, dans une chaise longue, les pieds dans l'herbe, tout ce que vous voulez, mais à lire. Vous avez un livre que je mets quand même en avant. C'est surtout un coup de cœur de ma collègue, un peu moins de moi, je pense que ça doit être générationnel. Ça.
Alors cette collègue, comment elle s'appelle ?
Louise. Donc, qui est ma nouvelle collègue depuis quelques mois à la librairie, et qui a beaucoup aimé le dernier, qui est un livre très intéressant, mais à l'écriture un petit peu différente, de Pierre Ducrozet, qui était l'invention des corps. Pierre Ducrozet, qui est un petit peu aussi de la région, parce que les parents ont une maison d'édition qui s'appelle Bulle de Savon, et qui est dans la région, ou plus pour Genèse. Il est question de transhumanisme. Il est question peut-être d'immortalité. Et Pierre a... voilà, on est dans des écritures très énergiques, très, très dynamiques. Et donc, il nous parle justement de cette idée peut-être que nous serions un jour immortels.
En tout cas, pas comme le chat du livre précédent.
Tais-toi, ne parle pas des choses qui fâchent ici. Voilà. Et je voulais terminer par un album jeunesse. À la fois parce que cet album est extrêmement beau, et puis aussi ça a été une belle rencontre. C'est également une japonaise qui s'appelle Ifumiyo, et qui a fait un album qui s'appelle Avec toi, chez Thierry Magnier. Cet album est absolument superbe. C'est l'histoire d'une maman et de sa fille, de leur moment, toutes les deux, le matin au petit déjeuner, toutes les deux aller au marché. Et c'est illustré donc par cette japonaise. Et c'est quelqu'un, en plus, elle est venue donc à la librairie, et elle est tout en douceur et comme son livre. Donc si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, voilà, vous avez l'obligation d'offrir ce livre Avec toi d'Ifumiyo. Et j'en ai fini, et bel été et belle lecture à tous.
Merci Bertrand. Et en tout cas, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour à la librairie, rencontrer Bertrand et Louise comme ça, si vous allez avoir, j'ai compris, c'est qu'il y a pas forcément les mêmes goûts, et c'est ça qui est
ah
magnifique.
Bah non, c'est, au contraire, c'est ça qui est bien.
C'est ça qui est magnifique. Voilà. Que vous ayez de la place pour mettre un très beau roman graphique ou une grosse bande dessinée, je ne sais pas comment on dit, en tout cas de beaux ouvrages, ou un peu moins de place en prenant l'avion pour prendre quelques petits livres.
À mon avis, pas besoin de pull, donc c'est bon. Vous m'aidez à la place.
Merci aussi Sylvie pour cette année à vagabonder ensemble.
Merci.
Merci à Mathieu qui, bien que silencieux, d'abord nous écoute, est obligé de nous écouter, lui, puisqu'il réalise nos émissions et qu'il rend tout ça très confortable pour nous. Donc un grand merci.
Professionnel.
Merci. Merci aussi à David Besnay et à Eric Martin d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de cette bande dessinée des aventures des frères Bompier et l'étrange disparition à Clochemerle. Et d'ailleurs, on en profite aussi pour lancer un grand bonjour, bonsoir, souhaiter une belle soirée à Michel et Pierre Bompier, vos deux personnages à qui on peut parler à travers, c'est ça qui est fort avec la radio, c'est qu'on peut parler aux personnages de bande dessinée. En tout cas, on espère que pour le tome 3, ils accepteront de venir nous parler. Moi, j'ai toujours rêvé d'interviewer le capitaine Haddock. Je crois que ça ne va pas être possible, mais au moins un frère Bompier, j'aimerais bien.
On croise les doigts.
Et vous avez raison de dire qu'il y a un tome 3, puisque nos fans de plus en plus nombreux sont attentifs à la suite. Donc effectivement, on peut le dire qu'il se passera au Mont-Brouilly.
Oui, tout à fait. Voilà.
Ah, il y a déjà un tome 3 qui est prévu au Mont-Brouilly. On va patienter alors, c'est parce qu'il faut du temps aussi pour faire...
Oui, on va essayer de prendre un petit peu plus de temps aussi pour travailler tout ça.
Très bien, en tout cas, merci, puis on vous souhaite une belle continuation dans vos projets communs. Bien sûr, vous pouvez aller faire un tour sur le site d'Éric Martin, il y a les dessins de Riri, on peut retrouver plus le côté un peu cartoon, dessin, et puis un site un petit peu plus institutionnel, on va dire, plus pour les activités créatives et de communication.
Tout à fait.
Voilà. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bel été pour que le temps soit bon, que l'été soit beau. Profitez, lisez, vagabondez, rêvez. N'oubliez pas que rien faire, ça n'est pas rien faire.
Je suis la fin.